Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, c'est l'heure de l'interview au 101.7 à Luc Andiwa. C'est Erdiwa donc, qui accueille aujourd'hui Samuel Catio et Michel Gentil. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici pour nous parler d'une rencontre que vous allez offrir au public qui s'intitule « La note invisible ». Avant, on va peut-être vous présenter séparément, à commencer par Michel Gentil, donc artiste, musicien, guitariste.
Voilà, c'est ça.
Et quoi encore ?
Quoi encore ? Guitare 12 cordes, beaucoup de guitare 12 cordes, c'est mon instrument principal. J'ai aussi, j'ai démarré aux États-Unis en 1975 dans les cabarets de San Francisco, puis 10 ans après je suis allé en Inde, donc il y a ces deux influences majeures qui se mélangent. Je compose et j'improvise donc entre Orient et Occident, des morceaux sur des guitares à cordes métal, donc guitare folk principalement, 12 cordes, 6 cordes, guitare baryton, c'est un peu plus grave que la guitare habituelle, et aussi une guitare que j'ai modifiée qui a un son indien. On en reparlera peut-être tout à l'heure parce que le dernier prototype que j'ai fait fabriquer a été fabriqué par Julien Jalaguet qui est un excellent luthier français qui se trouve à habiter à Lèche-Andigua. Donc voilà, et après mon parcours, j'ai fait un disque chez Disque AZ à mes débuts, c'est-à-dire la plus grosse compagnie d'édition française à l'époque, qui m'a permis de faire mes premiers concerts sérieusement, et puis depuis je mène une carrière de concertiste soliste principalement, et de temps en temps je rencontre des gens qui deviennent des amis, qui jouent de la musique aussi, et avec qui parfois j'ai pu jouer en duo et en trio, et là c'est vraiment l'occasion avec Samuel Catio, qui va lui aussi peut-être se présenter.
Alors Samuel, vous, votre instrument c'est la voix ?
Oui, c'est la voix, je la transporte tout le temps avec moi, tous les jours. Donc moi je suis, en fait j'ai travaillé ma voix, on va dire une voix lyrique au départ, une technique de plus de chant classique. Et j'ai été attiré assez rapidement vers la composition, l'improvisation. En fait j'ai beaucoup travaillé en improvisation au départ avec quand j'ai travaillé ma voix. Moi je suis donc je réside dans la Drôme comme Michel et dans le Diwa également depuis 3 ans, et sinon je suis originaire du Nord, donc j'ai fait une petite descente vers le Sud mais il y a déjà une vingtaine d'années. Et dans mes influences musicales, en fait j'ai été très attiré par le chant sacré d'une part, et puis le chant traditionnel, tout ce qui est de transmission orale plus que la musique écrite, parce qu'en fait la majeure partie de la musique dans le monde c'est une musique orale, et c'est ça qui m'intéressait pour travailler la voix. Donc j'ai voyagé dans pas mal de sur plusieurs continents, on va dire, pour rencontrer des musiciens soufis, des musiciens indiens, des musiciens d'Europe de l'Est. Donc il y a pas mal d'influences aussi, comme Michel. Et puis, on a fait cette heureuse rencontre, effectivement, au village où nous sommes, à Minglon, avec Michel, pour l'envie de travailler ensemble et de faire cette création, La Note Invisible.
Donc, il y a cette rencontre dans le Diwa.
Oui.
C'est lors de la concert qu'il y a eu cette rencontre ou...
Est-ce qu'on lui raconte ?
Tu veux lui raconter, Michel ?
Oh, je sais pas. En fait, moi j'habite donc à Minglon City depuis une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans. Et il se trouve qu'il y avait une maison à vendre juste à 70 mètres de chez moi, et que c'est Samuel qui s'y est installé. Et donc on s'est rencontrés juste comme ça. On s'est vu un peu, on s'est dit tiens quand même, ça pourrait être marrant, intéressant d'essayer quelque chose ensemble. Mais on n'avait pas donné suite. Et nos voisins qui se sont installés encore tout récemment, pour fêter l'anniversaire puis l'installation de leur maison, on nous a dit « Tiens, Samuel, Michel, vous ne pourriez pas nous faire un petit concert ?» Et là, on s'est dit « Zut, on a dit oui ». Et du coup, là, on s'est mis à travailler, quoi. Donc, on a travaillé une petite année ensemble. Et puis, finalement, en tant qu'à jouer pour nos voisins, on s'est dit « on a un concert qui est prêt, on va quand même le proposer ». Et puis, il y a une amitié qui s'est vraiment nouée entre nous. Il y a une connivence, il y a quelque chose qui fait que ça a fonctionné très, 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 très bien. Et deux univers, a priori, qui semblent bien différents, différents au départ, qui arrivent à s'associer en toute fluidité. Donc là, on est très content. On a fait une dizaine de concerts déjà. Ça se passe très, très, très bien. Et on a envie d'en faire beaucoup plus. Hein. Pas de doute là-dessus. Là. C'est parti.
Et Samuel Catio, donc installé à Minglon, qu'est-ce qui vous a donné envie de croiser vos arts, vos compétences?
Comme disait Michel, ça s'est fait de manière totalement fortuite entre nos deux maisons. Moi, je suis venu dans le Diois parce que c'est vrai que bon, j'y venais déjà beaucoup. J'habitais plutôt à l'entrée de la vallée de la Drôme avant. Et bon, je voyageais aussi beaucoup à l'international pour les concerts. Et puis là, il y avait l'envie depuis déjà 2 ans de travailler plus à demeure, de travailler dans la région. Ce qui est une belle source d'inspiration, moi, je trouve, pour la composition et la musique. Et c'est vrai que la première rencontre avec Michel, moi, je me suis dit quand même, on a effectivement des univers musicaux qui sont quand même assez... qui n'est pas diamétralement opposés, mais effectivement... des couleurs, des tessitures qui peuvent ne pas forcément s'associer. Et là, le travail a été, le travail puis la rencontre, ça a été surtout de travailler et de chercher ce qui nous rassemble, je pense, et c'est ce qu'on a fait. Donc puis moi, ça m'intéressait, comme je disais depuis longtemps, parce que cette approche là dans la note invisible, on pourra en parler un peu plus, mais les textes, notamment que je vais chercher, sont beaucoup des textes pareil qui existent, qui sont des collectages, mais donc toujours de transmission orale. Et donc, il y a ce travail autour de la spontanéité, de l'improvisation que Michel pratique beaucoup. Donc là, je pense qu'on avait vraiment un point commun pour travailler ça. Et ensuite, on savait qu'on allait trouver quelque chose, mais on ne savait pas où on allait au départ.
Exactement, oui, c'est ça.
Voilà.
C'est
donc, ça. La démarche, je pense qu'on a une démarche commune qui nous a plu très, très rapidement.
Nous allons écouter un premier passage, un morceau que tu nous proposes, donc Michel Gentil. Colère.
Un de mes morceaux fétiches que je joue depuis pas mal d'années en concert, qui se tient bien tout seul. Et c'est là que ce sera un petit peu la devinette. Comment Samuel a-t-il pu se poser sur ce morceau? Là, il y a juste moi, mais vous allez pouvoir imaginer comment Samuel se pose dessus lorsque vous aurez écouté son morceau à lui. Donc, pour l'instant, c'est juste le mien. Voilà. Thank you.
écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Colère contre quoi ?
Ah ! Colère contre quoi ? Bonne question. Eh bien, la colère, c'est un sentiment qui, quand même, un état dans lequel on peut se trouver de temps en temps. Colère contre un monde qui perd sa morale, contre une bétonisation effrénée des meilleures terres, y compris du Diwa d'ailleurs, contre l'intolérance, contre... Il y a toutes sortes de raisons d'être en colère. Puis des fois, on est en colère contre soi-même, mais tout est possible. Là, c'était pas un morceau d'une colère spécifiquement dirigée, c'est un morceau... pour une colère qu'on peut ressentir pour des raisons différentes, quoi, voilà.
Samuel, toi, donc, tu t'es investi aussi sur ce titre et par quel mode est-ce que tu vas opérer auprès de Michel ? Est-ce que il y a cette rapidité d'exécution ou alors en contre-coup, tu serais plutôt dans la douceur, dans...
Là, ce qui est intéressant, c'est justement c'est au niveau du processus en fait, qui s'est un peu mis en place petit à petit lors de nos rencontres. Parce que dans le contexte, il faut imaginer aussi, moi je vais souvent travailler avec des musiciens, mais je fais des centaines, voire des milliers de kilomètres pour aller répéter avec des musiciens. Là, de travailler avec un musicien qui est à 150 mètres de chez moi, c'est-à-dire qu'on avait on avait la liberté de s'appeler et puis de dire on joue demain ensemble, on se fait une session. Donc c'est intéressant aussi parce qu'on peut revenir sur l'ouvrage régulièrement. Là. Et puis Michel effectivement m'a présenté des compositions, moi je lui en ai présenté. Et après c'est vraiment ce travail d'improvisation puis de structuration du morceau. Et sur Colère au départ il me l'a joué, il me l'a présenté. Mais pas forcément pour qu'on vienne y mettre quelque chose de plus, parce qu'effectivement, les morceaux de Michel sont très construits. Et là, ça m'a mis en colère. Je me suis dit, mais moi, je vais m'y mettre dessus. donc, j'ai proposé quelque chose à Michel. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une possibilité sur ce morceau-là. Donc, c'est vraiment de trouver un peu, non pas des failles, mais des brèches, effectivement. Et la création, je pense que c'est ça aussi. Ça peut être des failles, des brèches, parfois des choses qu'on peut considérer comme un échec dans la musique, mais qui n'en est pas un, puisque en fait, c'est une porte qui s'ouvre. Et je pense que c'est l'exemple, et les gens qui viendront au concert s'en rendront compte, c'est vraiment l'exemple d'ouvrir une porte et puis de développer, un peu comme en musique indienne, hein, par exemple dans les ragas, hein, où effectivement on prend une mesure, et puis la mesure va finalement durer 20 minutes, on la déploie. Là, je pense que c'est un peu un travail comme ça qu'on a fait. Et sur Colère, j'ai cherché un texte. Pour moi, la colère, déjà, elle allait être italienne. Donc, j'ai cherché un texte italien. Et ensuite, ce qui peut être étonnant parfois, c'est que les propos de ce texte sont aussi de la colère. Mais ça, je ne l'avais pas forcément anticipé. Donc, c'est un peu les heureux hasards aussi de la création. Donc, voilà, l'entrée, elle peut se faire comme ça. Elle peut se faire, effectivement, de manière très douce aussi, où Michel va poser une nappe mélodique. Et puis moi, je vais être avec lui à chercher un peu la deuxième voix, finalement. Mmh. Parce qu'en fait, je mets aussi dans le travail musical, l'instrument et la voix sont au même niveau. Moi, c'est un instrument, la voix. Donc, c'est essayer de chercher cette connivence qu'il peut y avoir entre deux instruments.
Vous travaillez en acoustique.
Oui.
Donc, il y a aussi cet équilibre à trouver selon vos puissances.
C'est vrai.
Ouais. Les lieux vont jouer, ont une importance parce qu'on va... Là, on a joué en extérieur pour un festival. On a joué au temple de Minglon et on y rejouera cet été. Où là, on a une réverbe de 4-5 secondes. Donc après, on a répété dans le studio de Michel où là, le son est très précis. Donc c'est à chaque fois à adapter aussi le répertoire.
Il peut y avoir utilité à sonoriser un petit peu l'un ou l'autre selon les lieux. Samuel et la voix va être favorisée par une résonance un petit peu longue, une petite réverbe un peu longue. Pas forcément trop non plus. Hein. Et puis moi, ça va me défavoriser parce qu'on va moins entendre les attaques des notes de la guitare. Donc faut qu'il y ait... Par contre, un petit peu de réverb pour moi, c'est pas mal aussi. Donc voilà, on adapte un petit peu selon les endroits dans lesquels on joue.
Le morceau que tu nous as proposé, Samuel, qui s'intitule « Résonance », tu peux peut-être nous parler de ces conditions d'enregistrement ? Ça semble être dans une chapelle, j'imagine.
Alors là, ou... c'est le morceau, ouais, il est issu de « Résonance », il s'intitule « Illumination ». En fait, c'est un travail que j'ai fait. Moi, je suis musicien, mais j'ai une formation aussi en art appliqué à la base, et je suis assez passionné du livre, des manuscrits, des enluminures. Donc l'enluminure en anglais, c'est « Illumination ». C'est un travail vraiment sur la résonance des lieux et l'acoustique des lieux. Donc là, sur ce morceau, on est dans l'abbatiale de l'abbaye de Noirlac, qui est une ancienne abbaye cistercienne qui se situe dans le Berry, dans le centre de la France. Et c'est justement une part d'improvisation. En fait, c'est 20-25 minutes d'improvisation là, avec un autre musicien, Doron David Sherwin, qui est flûtiste et qui joue là du cornet. Et sur ces 20-25 minutes d'improvisation, en fait, on a retenu un passage qu'on a enregistré vraiment comme ça. Les conditions d'enregistrement, c'était au mois de janvier, il devait faire 14 degrés dans l'abbatiale. Mais voilà, ça fait partie aussi du jeu quand on cherche l'acoustique. Et je pense que c'est ça qui nous relie aussi avec Michel. Il y a cette écoute fine des sons, la recherche de l'acoustique. Donc je pense que c'est un morceau qui illustre bien aussi ce que devient notre travail entre Michel et moi avec la note invisible. Et là, en l'occurrence, dans un lieu qui effectivement, là, pour le coup, a une réverb de 8 à 10 secondes. Donc là, on est carrément avec même un autre musicien qui est le lieu.
Ce type de lieu incite justement à œuvrer avec beaucoup de lenteur.
C'est vrai que si on imagine par exemple Colère dans un lieu avec 10 secondes de réverb, on ne va pas le jouer du tout de la même manière. Ça va peut-être être une colère un peu intérieure.
Une colère lente.
Une colère lente, voilà. Parce qu'effectivement, si on le joue tel qu'on l'a imaginé dans le studio, là, ça va être un mélange. Enfin, y a plein de choses qu'on n'entendra plus du tout. Mais par contre, ça peut être intéressant. L'expérience est intéressante de se retrouver dans un lieu comme ça. J'ai beaucoup de musiciens qui me disent « Ah, tu verras, dans ce lieu-là, l'acoustique est vraiment pas bonne ». Elle est vraiment pas bonne si on y vient avec un répertoire qui est fixe et qu'on va restituer de la même manière. À partir du moment où on écoute le lieu et qu'on considère que c'est un instrument,
c'est ça.
C'est une approche complètement différente.
Les cisterciens sont les rois de l'acoustique. Hein, leurs abbatiales, leurs lieux, ce sont des instruments de musique, littéralement. Hein. Donc on chante, c'est surtout fait pour le chant à la base. On chante une note et il se déploie plusieurs harmoniques, plusieurs notes avec lesquelles on va pouvoir jouer, avec lesquelles on répond. Donc ça a vraiment été conçu par eux pour ça. Donc effectivement, moi, si on arrive avec une guitare électrique et puis qu'on joue du rock là-dedans, ça pourrait bien ne pas le faire. Il faut adapter.
Mais est-ce que ce type de lieu existe dans notre ère moderne ? Est-ce qu'il y a des musiciens ou des producteurs qui ont construit ce type de chapelle ou de lieu cistercien ?
On a perdu ces techniques-là. On n'est pas capable de refaire des lieux acoustiquement aussi intéressants que ceux qui ont été fabriqués par les cisterciens. Ce sont des techniques qui se sont perdues beaucoup.
Alors, on a aujourd'hui des constructions modernes qui s'inspirent de l'art roman. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas en général cette notion d'acoustique. Il y a la restitution au niveau architectural. On en a dans le sud de la France, hein, des abbayes qui ont été faites dans les années 80, un peu dans les règles de l'art. Hein. Bon, il y a quand même des structures en général béton avec de la pierre par-dessus. Mmh. Et là, effectivement, les cisterciens, ils travaillaient l'acoustique dans la masse, au niveau du gros œuvre. Mmh. Et aujourd'hui, l'acoustique, c'est quelque chose qui est traité en aval, après la construction du bâtiment. Et souvent, l'acousticien, il vient un peu pallier le travail qui n'a pas été fait au niveau du son. Donc, alors moi j'ai joué dans un lieu en Belgique qui a été conçu par un architecte et un musicien, un chef d'orchestre. Et là, effectivement, ils ont eu une réflexion, mais c'est plus après avec de la technologie. C'est pareil, c'est des panneaux qui peuvent s'ouvrir, se rétracter et qui peuvent créer une réverbe naturelle qui va jusqu'à 6 secondes. Ou sinon un son studio complètement précis et assez sec. Donc il y a quand même des recherches de sons comme ça, mais pas effectivement dans cette idée que la structure elle-même crée l'acoustique du lieu. Et quand j'étais à Noirlac, j'ai rencontré aussi des chercheurs qui étaient là sur ce qu'on a découvert, en fait, qu'ils appellent des vases acoustiques. Et on trouve dans beaucoup de lieux, même dans la Drôme, dans certaines églises, il y avait des pots en terre qui était mis dans les voûtes. Et en fait, on ne voit que les petits trous en fait, de l'ouverture hein, quand on est en bas, sous les voûtes. Et souvent, ça, c'est des choses qui ont été bouchées, obstruées au 19e, 20e, avec les badigeons qu'on remettait, les ciments qu'on remettait sur les lieux. Et du coup, c'est pour ça que certains disent « Ah, mais l'acoustique est déplorable dans ce lieu », parce que avant, il y avait ces vases acoustiques et ils étaient équilibrés. Ils savaient les accorder, en fait. Donc, aujourd'hui, je ne m'y suis pas encore assez intéressé, mais il y a quand même quelques architectes qui s'y intéressent. Donc, je pense qu'il y a quand même quelques lieux modernes, mais c'est toujours fait, effectivement, après la construction du lieu.
Nous écoutons donc ce titre et on se retrouve après. Illumination, c'est un flot de lumière.
Oui, pour le coup, c'est un flot de lumière. C'est là qu'on se rend compte que la musique, ce sont des fréquences et que la lumière, au même titre que la musique, d'ailleurs, elle a le même vocabulaire. Hein, on parle de couleur, on parle de contraste en musique, comme effectivement en lumière. On pourrait parler d'un spectre musical. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment ce rapport. Et pour moi, qui est effectivement œuvré dans le domaine de l'image autant que la musique, finalement, on se rend compte que c'est des médiums différents pour exprimer la même chose. Un artiste en musique peut exprimer la même émotion qu'un dessinateur, un peintre. Donc c'était un peu cette idée-là, oui, il y a vraiment un flow, et quand on est dans ces lieux-là, avec autant de réverb, on a l'impression qu'on reçoit effectivement une pluie de quelque chose, hein. C'est assez impressionnant comme lieu quand on vit l'expérience, et quand on la fait vivre au public, parce que c'est ça qui est chouette aussi, de pouvoir le partager.
Par opposition à Samuel Catio, Michel, toi, tu pratiques la guitare avec une rythmique plutôt accélérée. Est-ce que pour cette collaboration de la note invisible, il a fallu aussi que tu adaptes ton jeu sur certains sites dû à cette résonance, donc alors, pas être perturbé par elle aussi.
Non, je ne joue pas d'une manière générale, de façon rapide, accélérée. J'ai des morceaux extrêmement lents. Et je suis, comme Samuel, passionné par les acoustiques des lieux. Donc j'avais déjà expérimenté ça. J'ai enregistré un disque dans le temple de Minglon, réverb d'une longueur donc de 6-8 secondes, effectivement. Mais donc justement, je suis passionné. On se retrouve beaucoup, beaucoup tous les deux là-dessus. On est très proches pour cette recherche. Donc non, ça ne m'a pas posé de problème particulier. Alors évidemment, le morceau Colère, là, celui-là, c'en est un rapide, effectivement. J'en ai quelques-uns qui sont quand même ultra rapides. Mais d'une manière générale, j'aime bien développer dans la lenteur et la profondeur les choses, quoi. La musique.
C'est le lieu qui vous guide, qui vous donne le tempo, en somme.
Oui, oui, il y a vraiment un côté comme ça. On est obligé de s'adapter à ça. Effectivement, chaque lieu a son tempo. Ouais.
Et ouais. Ça, c'est encore plus remarquable avec Samuel, avec ses reprises de voix. À quel moment et il y a aussi cette notion, justement, un peu dangereuse, de ne pas avoir un tempo ou quelque chose qui relie avec le temps. Et comment s'opère, justement, cette osmose avec un accompagnateur?
Alors, pour moi, Michel, dans cette création, est plus qu'un accompagnateur. Effectivement, parce qu'on est tenté avec le chanteur, avec un chanteur, une chanteuse. Effectivement, le public va mettre en avant le chant. Enfin, il y a quelque chose qui effectivement capte. Et ce que je trouve intéressant, c'est de remettre un peu le chant, comme je disais, au même niveau que n'importe quel instrument. Le chanteur est avant tout un instrumentiste de la voix, finalement. Et là, c'est là, je pense, où on se rejoint. Et dans les notions de tempo, de rythme, pour le chanteur, finalement, c'est un peu ce qu'on a oublié, c'est la respiration. Et comme on est dans des gammes, moi j'ai beaucoup travaillé aussi en musique baroque, musique classique, on est dans des gammes qui sont tempérées, où les rythmes sont un peu figés. Et alors qu'à la base, le chant se base sur la respiration, la mesure, elle peut varier légèrement. On trouve ça dans le flamenco, on trouve ça dans plein de traditions musicales. Et je pense que c'est ce qu'on a aussi développé avec Michel sur ce répertoire, cette liberté d'interpréter et qui nous permet de jouer différemment selon les lieux et selon l'acoustique. Et au départ, je pense que la recherche, elle a été assez fine aussi, parce qu'on a plutôt travaillé dans le studio de Michel ou chez moi, où là, on n'avait pas de réverb du tout. Donc, c'est d'abord la précision qu'on a travaillé pour maintenant, grâce au concert, se retrouver dans des lieux différents et expérimenter le répertoire dans des conditions différentes.
Avec, du coup, une précision encore plus grande. Puisqu'en fait, quand on respire, le rythme n'est pas forcément rigoureusement timé de façon absolument égal, mais il est quand même encore plus précis, justement, encore plus précis. Il ne faut pas penser, c'est beaucoup de musiciens qui pensent ça, qui disent « mais t'es pas carré ». Mais bien sûr, on n'est pas forcément carré, mais lorsqu'on n'est pas carré, on est encore plus précis que lorsqu'on l'est, quoi. Il ne faut pas l'oublier, c'est quand même une leçon très importante. Et comme dit Samuel, effectivement, c'est un peu réducteur de le dire comme ça, peut-être. On est comme deux solistes. Il n'y en a pas un qui accompagne l'autre. On est tous les deux au service de la musique en général. Et donc, on se soutient. Il y en a à un moment donné, un qui soutient l'autre un peu peu plus et vice-versa. Et on se regarde, on s'écoute. Et c'est, ça, ça suppose une véritable amitié. Pas seulement, on n'est pas simplement collègues. Si on n'était que collègues, ce serait pas mal. Mais là, on est en train de devenir amis. Et là, ça devient vraiment intéressant. Que c'est ça le fondement, c'est seulement l'intention qui compte hein, dans ces choses-là.
Cette proposition de la note invisible, pourquoi ne pas avoir mentionné plutôt la note inaudible ?
Ben, je pense qu'on est, on est justement dans cette, ce que je disais au niveau du vocabulaire, entre l'image et le son. Donc voilà, c'est cette note invisible. Et oui, la perception du son, est-ce qu'elle est uniquement par les oreilles ? J'ai eu l'occasion dans un concert d'avoir une dame qui était venue me voir après le concert en me disant, vous savez, ça fait 7 ans que je ne suis pas venu à un concert, parce qu'il y a 7 ans, j'ai perdu l'audition. Et donc, je suis appareillé, mais j'imaginais que c'était plus possible pour moi d'entendre la musique. Et elle dit, je découvre en fait qu'on n'entend pas la musique uniquement par les oreilles, mais par le corps tout entier. Et c'est vrai que bah, quand on vient dans un concert, on écoute, mais on regarde aussi. Donc il y a cette recherche. Il y a cette recherche et la note invisible, c'est un peu ça. C'est aussi de dans cette écoute fine des sons, de chercher cette note qui est ce plus, peut-être.
Et qui permet un élargissement de conscience.
Il y a une tournée ensemble pour cet été et peut-être au-delà aussi.
Oui.
On peut citer quelques dates.
Oui, absolument.
Oui, alors comme disait Michel, on a d'une première date à Minglon, finalement, la tournée s'est un peu construite au fil de l'année, là, du début de l'année. Et puis on a quelques dates. On avait vraiment envie de présenter déjà le répertoire dans le Diwa pour le partager avec les gens qu'on connaît, le public, les gens qui sont de passage. Voilà, donc là, prochainement, la première date, ce sera donc à l'église de Boulk, le 16 juillet, à 20h30. Et puis ensuite, on sera à Valdrome.
Au temple de Valdrome,
au temple de Valdrome.
Le 24 juillet, cette fois à 18h.
Voilà.
Et on a pris contact aussi avec les restaurateurs, il y a la possibilité de manger. Et puis il y aura une rencontre entre nous et les publics, si ça l'intéresse, entre les deux, avant le repas, quoi, après le concert. On va rejouer à Minglon le 13 août prochain. Cette fois, c'est au temple de Minglon, à 20h30. Ensuite, bon, voilà, il y a Vassieu-en-Vercors à la même heure, 20h30, le 14 août. Le 19, on sera chez mon ami luthier Julien Jalaguier à Lèche en Diwa. Et ça, ce sera à 18h. Et là aussi, on a pris contact avec l'auberge. C'est pas l'auberge, c'est
le bistrot de Lèche en Diwa. Et donc, il y aura le concert au temple. Et puis ensuite, les gens, s'ils souhaitent, pourront se restaurer au bistrot de Lèche en Diwa.
Voilà, il y a bon, ensuite Saint-Martin-en-Vercors le 30, etc. Après, on joue un peu en Ardèche. On va jouer à Saillant le 28 août. Là, cette fois,
28 septembre,
oui, j'avais mal lu, à 19h. Mais et voilà, Saint-Étienne-en-Quin également, ça c'est le
20 octobre, ouais. Et ce sera à la Bergerie, qui est un beau lieu aussi, qui a été rénové, là, et donc on y sera pour l'automne.
À 17h30, donc ce jour-là. Donc il y a une série de concerts comme ça.
Et c'est de nombreux rendez-vous hein, pour oui. Cette saison, jusqu'à l'automne. Est-ce que c'est une chance aussi d'avoir un luthier sur ce territoire ?
Avant de parler de cette chance, parce que c'en est une, j'ai oublié de mentionner une date où cette fois je serai tout seul, excuse-moi Samuel, mais voilà, ce sera le 2 août à la salle des fêtes de Minglon. Là, cette fois, ce sera un spectacle déjeuner, un concert déjeuner, c'est-à-dire le rendez-vous sera à 10h, 10h30 du matin. Le concert aura lieu à cette heure-là. Et puis à midi, ceux qui veulent pourront rester manger. Donc voilà, c'est une formule qui est... c'est la meilleure formule que je connaisse. Et tous les gens qui l'ont vécu nous ont confirmé que c'était bien la meilleure formule qu'ils connaissaient aussi. C'est très bien parce qu'on commence le matin, en fin de matinée, on a la grasse matinée. On a le concert. Ensuite, on peut rester manger ou pas. Et après, toute la journée encore, on est sous les effluves du concert, de la musique. Donc, on a l'après-midi libre pour faire ce qu'on a envie. Donc, c'est une très, très intéressante formule.
Et on se restaure avec la cuisine d'un très bon chef.
Un très bon chef, en l'occurrence, mon fils Félix, qui a passé son CAP cuisine il y a quelques années et qui est devenu donc cuisinier maintenant et qui cuisine des choses... qui cuisine des belles choses. On va dire ça comme ça. Alors ça, la salle des fêtes de...
Il sera présent, mais il n'a pas une activité
Il est parti, il est sur Clermont-Ferrand en ce moment, où il est cuisinier, effectivement. Oui, donc
cette chance de lutter.
Oui, grande chance, grande chance, parce que Julien Jalaguier, qui était en fait au départ un ingénieur dans le domaine de l'hydraulique, a décidé de lancer dans la lutherie il y a une quinzaine d'années. Il est installé à Alèche depuis 10 ans et il se trouve que c'est quelqu'un qui a aussi énormément de sensibilité, lui-même bon guitariste, beaucoup de sensibilité, ce qui fait qu'il a à la fois le côté rigoureux du scientifique et la sensibilité subjective de l'artiste, qui lui permet d'être intelligent, tout simplement. Parce que quand il n'y a que l'une ou l'autre de ces matières qui sont mises en exergue, ça ne suffit pas, ça ne le fait pas du tout. Ça peut même être extrêmement dangereux. Donc là, il a les deux côtés et c'est tout à fait passionnant. Il est très rigoureux, il a une connaissance des bois qui est exceptionnelle. Moi, je connais énormément de luthiers, je connais beaucoup de luthiers français dans le domaine de la guitare. Et ils me connaissent évidemment beaucoup. Parce que j'ai beaucoup essayé leur guitare. Pour eux, je fais partie des références. Donc, quand ils demandent à essayer une guitare, ils me posent la question. Bon. Et donc, parce que je me suis toujours intéressé au son, c'est grâce à ça. Hein. Du coup, je suis copain avec énormément d'entre eux. Et je peux vraiment dire, sans exagération, que Julien est en train de devenir l'un des meilleurs luthiers du pays dans le domaine de la guitare. Et il est aussi, parmi les luthiers, un de ceux qui connaissent très 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 bien les bois. Il a vraiment une connaissance des bois extrêmement élaborée. Donc il est installé à Lèche, il fabrique des instruments, principalement des guitares, mais ça peut être des guitares harpe. Moi, il m'a fabriqué une guitare qui sonne à l'indienne, comme un sitar, un petit peu la guitare sitar, on appelle ça la guitare sitar. Et on a tellement travaillé ensemble que finalement, on est allé en Inde ensemble en novembre dernier pour vérifier que notre fabrication, cette guitare sitar, pourrait ou pas être adoubée par les luthiers de là-bas. Et c'était le cas. Ils nous ont félicités. Donc, on est revenus contents. Et donc, on a passé un mois ensemble en novembre dernier là-bas. Et on a décidé de lancer une gamme de guitare sitar. Alors, il y a la guitare sitar 6 cordes avec 6 cordes sympathiques. C'est une construction de fou. Je ne sais pas comment il a réussi à faire ça, Julien. C'est vraiment extrêmement précis. Il a mis ses cordes traversent à l'intérieur du manche, les cordes sympathiques. Enfin, bon, elles ressortent de l'autre côté. Ça marche très, très bien. Une guitare à 10 cordes, qui est un peu ce que j'avais commandé au départ, c'est-à-dire la 12 cordes, moins les deux aigus que j'ai dédoublés, puisque vous savez, la 12 cordes, c'est 2 fois 6 cordes. Enfin, pardon, c'est ça. C'est chaque fois 2 cordes l'une à côté de l'autre, et les deux aigus, je les ai dédoublés. Donc j'ai enlevé les deux aigus, donc ça reste une 12 cordes, elle en a 10. Bon. Et elle sonne, pas besoin de cordes sympathiques, parce que le son indien est tellement puissant que ça donne suffisamment. C'est excellent. Et puis une version aussi baritone, plus grave. Donc voilà, on lance une gamme qu'on va essayer de vendre. On sait qu'on aura un public limité, mais mondial. Donc on va la vendre aux États-Unis, en Allemagne, etc. Donc on est parti pour ça.
On pourrait produire toute une émission rien que sur ce sujet avec Michel. Est-ce qu'il existe une équivalence du luthier pour la voix ?
Oui, alors j'y pensais en écoutant Michel. Ce qui m'a plu dans le travail de Michel, c'est que les gens le verront en concert. Hein, il a ses 4 guitares derrière lui. Il a un spectre sonore assez large. Et moi, je viens pareil avec ma lutherie, hein, en fait, puisque j'utilise depuis longtemps et je travaille cette voix de contre-ténor, donc qui s'apparente à la voix de soprane ou de mezzo chez les femmes. Mais je vais aussi explorer la voix de ténor et la voix de baryton, parce que le contre-ténor a une base de voix de baryton, donc plus grave. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, notamment dans mon approche, mon intérêt pour la musique traditionnelle, c'est que là, on ne se pose pas la question de ces classifications. Une voix, elle a une possibilité assez vaste, on est là pour l'explorer. Et après, des luthiers, oui, on peut dire qu'il y en a, il y a des phoniatres, il y a des professeurs. Moi, j'ai eu dans mon parcours la chance d'avoir des professeurs, je pense un peu comme Julien Jalaguier, des gens qui sont en même temps scientifiques et artistes, qui ont une approche assez atypique ou en tout cas un peu transversale de la musique et qui m'ont aidé, m'ont accompagné à découvrir cette voie que je continue à explorer. En fait, chaque création est un prétexte à aller découvrir un peu plus l'instrument et à me surprendre moi-même dans les possibilités qu'on a en fait avec la voix. Qui pour un chanteur est très lié aussi au rapport qu'il a à son corps, mais pour un instrumentiste c'est pareil. C'est peut-être moins abordé, en tout cas moi qui j'ai une formation aussi au conservatoire, on aborde moins ce rapport au corps en fait avec l'instrument. Et je pense que c'est vraiment lié. C'est même peut-être le travail le plus important. Quand je n'ai pas l'occasion de travailler ma voix, je travaille au moins au niveau du corps. Moi, je fais du Qigong, je me suis intéressé aux arts martiaux, tout ça, parce qu'on façonne notre instrument petit à petit, comme Michel va façonner une guitare au fil des années. Donc, et c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a des phoniatres, des professeurs, des enseignants qui sont un peu les luthiers de la voix. Et puis après, on est notre propre luthier en tant que chanteur. Mais je pense qu'un instrumentiste, c'est pareil. Il va avoir une connaissance de plus en plus fine de son instrument. Et lui-même, là aussi, je pense qu'il y a besoin d'une connivence entre le luthier qui a fabriqué l'instrument et le musicien qui emmène son instrument et qui joue avec quotidiennement.
Absolument.
On pourra vous découvrir aussi en indiquant sur la page de l'émission les liens URL de vos sites, Michel
oui.
Gentil et Samuel Catio. Et puis, que dire de plus?
Alors, Michel parlait de cette date qu'il fait donc à la salle des fêtes de Maguelon, avec cette expérience du matin. Et c'est vrai qu'on en a parlé. Du coup, moi, je fais une expérience du matin aussi qui va être le 26 juillet à la chapelle de Saint-Andéol, en Vallée de Quin. Où là, c'est pareil, c'est vrai que c'est une belle invitation, on y avait pensé et je pense qu'on le fera aussi. Même des concerts du dimanche, effectivement, qui peuvent se faire le matin, parce qu'on est, on n'est pas du tout dans la même énergie.
Non.
Et le public repart avec ça pour toute sa journée. Donc c'est vrai que c'est des expériences qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Donc je pense qu'on va continuer à explorer un peu des formules assez différentes pour le public. Le mieux maintenant, c'est de dire au public de venir à un des concerts, de découvrir.
Il faut venir.
Faut venir.
Michel Gentil et Samuel Catio, je vous remercie beaucoup d'être venus sur le 101.7 de Erdiwa à Luc-en-Diwa pour
merci,
vous présenter
Yves.
Vos concerts et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci Yves.
Au revoir.
Au plaisir.
Au revoir.
Vous écoutez Erdiwa et c'est extra.